Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, bienvenue à bord de l'émission Ensemble. Nous allons parler de jeunesse et d'économie aujourd'hui en compagnie de Julie Bouvier qui est responsable de la communication de la Jeune Chambre économique de Chartres et environ, je crois, c'est ça.
Et sa région.
Et sa région. C'est important de le dire. En régie, c'est Émilie aujourd'hui. Alors, nous allons parler de la Jeune Chambre. D'abord, parler peut-être de l'origine de la Jeune Chambre. C'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'était fondé en 1952 par un personnage que je connaissais, dont le visage est connu des quinquas, on va dire. C'est Yvon Chotard, qui a été le directeur du CNPF, alias le MEDEF autrefois. C'est lui qui a fondé la...
Exactement, c'est lui qui l'a fondée en 1952, mais elle est même plus ancienne que ça, puisque là on parle de la Jeune Chambre économique française, qui a été fondée en 1952. Mais avant, les prémices sont nées aux États-Unis, à Saint-Louis plus exactement. Et puis on a un mouvement qui s'appelle la Jeune Chambre internationale, dont découle la Jeune Chambre économique française, qui est un peu plus récente, mais qui a quand même effectivement déjà 60 ans derrière elle d'existence. Ouais.
Pourquoi a-t-il fondé en 1952 une jeune chambre économique ? Ça sert à quoi ?
À l'origine, la jeune chambre économique, elle avait une idée, une vocation de paix, puisqu'on est dans une période qui était post-guerre, un peu troublée, avec toujours l'idée de « plus jamais ça ». L'idée, c'était de par le biais de l'économie et de l'implication des citoyens sur le territoire, d'éviter de nouvelles guerres. C'était le but premier, c'était la paix. Au jour d'aujourd'hui, selon les pays où il y a des jeunes chambres économiques, il y a une vocation qui est un peu plus tourné vers l'économie, vers le social, vers aussi des clubs business dans d'autres pays, comme dans les pays asiatiques, où effectivement il y a plus une vocation business. Et en France, on a choisi de prendre cette tournure économique qui n'est pas la tournure d'origine de la Jeune Chambre.
D'accord. Alors, au départ, il s'agissait de quoi faire très précisément, concrètement ?
Alors, au départ, c'était principalement des chefs d'entreprise qui avaient pour vocation de reconstruire leur territoire en menant des actions sur leur territoire, à proximité, dans leur ville, dans leur agglomération.
Oui. Donc c'était vraiment, il y avait une fonction de réelle implication dans l'économie locale, quoi, par
exemple. Exactement, au sens ancien de politique, ouais. À savoir agir pour sa cité.
Et aujourd'hui, qu'en est-il ?
Alors aujourd'hui, la vocation de la Jeune Chambre économique française, elle reste tournée vers l'économie, puisqu'on a fait ce choix de mention du terme économique dans le sigle qui n'est pas celui d'origine. Aujourd'hui, on a quatre axes de travail majeurs qui sont l'emploi, l'environnement, l'économie, et puis aussi, évidemment, l'aménagement du territoire.
Ouais. L'environnement, c'est nouveau, ça, non ?
L'environnement, alors, ça a une dizaine d'années. Il faut savoir que la Jeune Chambre économique internationale a un siège à l'ONU, et que donc les actions menées par la Jeune Chambre économique nationale, comme la Jeune Chambre économique française, sont donc axées par rapport à ce qu'on appelle les Global Goals, qui sont à l'ONU, et qui tournent beaucoup en ce moment sur la notion d'environnement et d'écologie.
D'accord. Donc, au niveau mondial, voire au niveau français, que faites-vous pour l'environnement ? Parce qu'on parlera, je sais qu'il y a une action locale, on en reparlera tout à l'heure, mais sur le plan international ou national.
Au niveau français, il y a eu des grandes avancées dans ce domaine-là qui sont pour origine de la Jeune Chambre économique. Les conteneurs à verre, c'est une initiative Jeune Chambre économique qui a été reprise et essaimée partout sur le territoire et qui aujourd'hui est dans le quotidien de tout le monde sans qu'on en connaisse forcément l'origine, comme beaucoup d'autres projets comme les rues piétonnes qui sont aussi une initiative d'une Jeune Chambre économique locale et qui sont aujourd'hui rentrées dans les mœurs.
Donc vous êtes très novateur alors, les rues piétonnes ?
Effectivement, la Jeune Chambre économique, elle a aussi pour vocation d'être un laboratoire d'idées, de tester des choses sur le territoire, des choses que ne peuvent pas forcément faire les politiques locales pour des raisons de mandat ou de convenance. Nous, on les teste, si ça fonctionne, on les transmet éventuellement à des institutions locales, d'associations, pardon. Donc on a effectivement ce rôle d'incubateur d'idées qu'on revendique.
Ouais. Alors comment est constituée la Jeune Chambre française, on va dire ?
Alors elle est constituée en différentes strates, un peu comme d'autres associations, comme les Lions Club que certains peuvent connaître, avec une strate donc internationale, qui est la Jeune Chambre économique internationale, une strate française nationale, qui chez nous s'appelle la JCEF, Jeune Chambre économique française. Vous avez aussi un échelon fédéral, donc régional, qui s'est resserré avec le rapprochement des régions récent. Et puis vous avez l'échelon local, qui est en réalité l'échelon qui fait les actions sur le terrain, puisque chaque Jeune Chambre économique locale mène des projets, des actions en faveur de son territoire et qui répond aux besoins et aux problématiques de son territoire.
D'accord. Est-ce qu'on peut vous rapporter ou ramener votre action à celle un peu des clubs-services comme le Rotary ou Lyon ? Vous venez des États-Unis comme eux.
Alors, l'origine est un peu la même. La différence, elle est essentiellement sur le type d'action qu'on met en place. Puisque nous, on met des actions qui sont des actions donc innovantes. Alors, ces clubs-là ont leur raison d'exister. Hein. Il n'y a pas de compétition entre nous. D'ailleurs, beaucoup de membres jeunes chambres atteints par la limite d'âge, puisqu'on a cette caractéristique-là d'avoir une limite d'âge des 40 ans, basculent ensuite
sur... Ah d'accord, on est vieux après, alors c'est ça, hein. Dites-le.
On est moins disponible pour ce type d'engagement citoyen.
Oui, on peut le comprendre.
Donc, par rapport à ces clubs services-là, on est plus effectivement sur l'action de terrain, des actions qui se renouvellent tous les ans et qui ne sont pas forcément toujours du vide-grenier, de la collecte ou de l'humanitaire. On est donc un peu moins tourné vers l'humanitaire, mais plus vraiment vers l'action en faveur du territoire, de l'actualité du territoire. Et puis surtout, il y a un grand volet qu'on ne trouve pas dans d'autres clubs services, qui est le volet formation, puisque on n'est pas tous porteurs de projets ou dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle. Donc on se forme aussi pour pouvoir agir, et puis on agit pour se former.
Alors avant d'aborder le volet local, je voulais attirer l'attention des auditeurs sur le credo des gens de la jeune chambre. J'ai découvert qu'il y a un credo commun fondateur qui est rappelé lors des assemblées générales, et qui commence par la foi en Dieu. Alors, vous allez beaucoup plaire aux auditeurs de Radio Anciel, là.
Alors, le credo, en fait, il a une origine américaine, puisqu'il a été créé au tout début de la Jeune Chambre économique internationale. Donc, il s'applique effectivement dans toutes les jeunes chambres économiques nationales. Après, c'est une traduction française d'un credo américain. Le sens qu'on lui donne dépend aussi de l'engagement de chaque membre dans l'association. Effectivement, c'est quelque chose qui peut faire peur au départ quand on vient à nos assemblées générales ou autres, puisque ça peut être rebutant pour certains, mais après on y trouve le sens qu'on veut y trouver, ouais. Qui n'est pas forcément la foi en Dieu, comme on l'interprète au sens premier, mais en l'autre et en l'humain et en nos capacités à nous à créer des changements positifs.
L'humanité, c'est important. La Jeune Chambre, c'est ce qui est au fondement finalement.
C'est ce qui était au fondement, à l'origine de la Jeune Chambre déjà. Et puis aussi au fondement de nos actions, à savoir, c'est vulgarisé, mais c'est vraiment aider son prochain, après avec des mécanismes qui sont autres qu'humanitaires ou assistance, comme d'autres clubs-services ou associations peuvent le faire.
On va le voir, c'est parfois ludique, en tout cas à Chartres.
On essaie de le rendre ludique.
On va parler donc de la Jeune Chambre économique de Chartres et de sa région. Vous êtes combien ?
On est une quinzaine de membres cotisants. Après, une particularité à la Jeune Chambre, c'est qu'on a aussi ce qu'on appelle des observateurs, des gens qui ne sont pas encore officiellement adhérents à l'association, mais qui participent à nos actions, à nos formations et à nos événements pour un peu découvrir le mouvement. Et puis, une fois qu'ils y ont pris goût, y adhérer, entre guillemets, à part entière.
On peut faire acte de candidature, c'est pas une cooptation, justement, comme
dans
les clubs
services. Non, il n'y a aucune cooptation, il n'y a aucun... aucune limite. La seule limite, c'est la limite d'âge. Après, on a des gens d'origine sociale totalement différente, des chefs d'entreprise, des employés, des salariés, des fonctionnaires, des agriculteurs. Il n'y a pas de critères d'origine socio-économique, culturelle ou familiale qui rentrent en jeu.
Et la moyenne d'âge à Chartres, je vous vois, vous êtes l'ancienne présidente ancienne quand je vous vois.
La
vous
moyenne
êtes une
d'âge
jeune
à Chartres,
ancienne, hein.
elle est assez jeune par rapport à d'autres jeunes chambres économiques locales. On doit être autour d'une petite trentaine, en dessous de la barre des 30 ans.
Oui. Et vous avez donc déjà été présidente, hein, je précise à nos éditeurs, c'est un
j'ai
an.
Été présidente l'année dernière, puisqu'on ouais. a la particularité à la Jeune Chambre de prendre des responsabilités assez rapidement et de faire tourner ces prises de responsabilités pour que chacun, entre guillemets, acquiert des compétences via ce mouvement. Et donc tous les ans, on change de bureau et on réaligne un nouveau bureau sur un programme. Donc j'ai effectivement été présidente l'année dernière.
Ouais. Alors, présentez-nous les actions. Elles sont nombreuses. Hein. Je suis allé sur votre site. Il y a beaucoup de choses. Et puis, ça va un peu dans tous les sens, mais au sens positif.
C'est l'idée, parce que l'idée, c'est aussi de satisfaire aux besoins et aux envies des membres qui ne sont pas forcément tous les mêmes. De satisfaire aussi aux besoins, aux manques du territoire qui sont divers et variés. Donc, effectivement, on a 6-7 projets qui sont en cours sur 2017. Des projets qui sont parfois nés un petit peu avant, ce qui est le cas de Smile in Chartres, qui est un projet qui est né en 2016, qui est sur l'accueil des nouveaux arrivants sur Chartres. L'idée, c'est d'organiser un événement par mois pour les réunir, pour leur faire découvrir le territoire. Et puis derrière ça, il y a aussi l'idée de garder les compétences qui arrivent sur le territoire et qui ne sont pas forcément très emballées d'arriver sur Chartres, qui n'a pas une connotation glamour ou sexy pour ceux qui viennent nous découvrir. Et donc, on leur fait aimer le territoire pour qu'ils restent et que leurs compétences restent sur le territoire et que leurs employeurs n'aient pas à rechercher de nouvelles recrues à chaque licenciement ou chaque démission pour cause de blues sur la région eurélienne.
Bon, et rassurez-nous, c'est quand même pas si compliqué que ça de faire aimer Chartres.
C'est pas si compliqué que ça. Par contre, c'est compliqué de s'y intégrer. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de jeunes qui arrivent en premier emploi, en premier job sur la région, sur le département. On a la chance, mais aussi la malchance d'être proche de Paris. Et donc, assez souvent, quand ils peuvent rebondir ailleurs, ils le font, alors qu'on ne leur donne pas comme raison que Chartres n'est pas accueillant pour le faire.
Alors, qu'est-ce que vous faites pour leur faire Chartres, très précisément, cette découverte ?
Alors, ça, c'est un événement par mois, soit en soirée, soit en week-end, pour leur faire découvrir soit la gastronomie, soit la culture, soit on a fait l'hippodrome de Chartres il y a une quinzaine de jours, découverte des coulisses de l'hippodrome de Chartres. On a fait aussi la découverte d'une ferme de spiruline l'année dernière. On leur a fait une journée patinoire sur la patinoire qui était mise sur la place des départs l'année dernière également. On leur fait découvrir des lieux un peu plus festifs, que ce soit restaurant ou bar sur Chartres et l'agglomération, puisque on vise aussi tout le département et pas seulement Chartres.
Oui. Et là, c'est Chartres en Lumière qui vient de redémarrer. Je suppose que ça va être au programme bientôt.
Alors, ça va être au programme. Après, on essaye aussi de faire des choses un peu originales qu'ils ne pourraient pas forcément découvrir par ailleurs.
Oui. Vous avez quand même une sorte de contrat moral avec la ville, par exemple, de Chartres. Vous vous êtes aidé.
Alors, on n'a aucun contrat moral avec la ville. On est une association qui est indépendante. On ne touche pas de subventions. Après, selon les types d'actions que l'on met en œuvre, effectivement, on a parfois des supports logistiques en termes de communication par la ville, l'agglomération, d'autres associations éventuellement qui s'associent à nos projets. Mais on est dépendant d'aucune institution.
Comment vivez-vous alors ?
Alors, on vit essentiellement des cotisations pour tout ce qui est le budget global. Et le fonds de roulement de la jeune chambre, on va dire. Par contre, pour tout ce qui est action, et ben pour chaque action, on va chercher des partenaires, selon la thématique d'action choisie, qui, soit par des partenariats logistiques, en nous fournissant du matériel, soit par des partenariats financiers, en nous offrant une enveloppe monétaire, permettent de monter à bien nos projets.
Ouais. Est-ce qu'il y a des critères d'admission, en fait ? Est-ce qu'il faut être partie prenante de la vie économique ? Par exemple, être chef d'entreprise ou pas du tout ?
Non, je vous le disais, il n'y a aucun critère d'admission. Il faut avoir un peu de temps, il faut avoir envie de s'engager, et puis il faut être dynamique. Puisque, effectivement, ce n'est pas une association où vous pouvez retrancher, entre guillemets, derrière votre petit panneau. C'est une association où il y a de l'action, où il y a du mouvement, et on ne fait pas juste acte de présence, comme ça peut être le cas.
On ne pantoufle pas.
Exactement.
À la jeune chambre. Alors, une autre action, alors que moi, je pensais venir de Colibri, qui sont partenaires de Radio Grand Ciel, c'est Graines de Potager, mais vous me dites que non, vous me l'apprenez.
Graines de Potager, c'est l'idée de mettre en relation des gens qui sont à la recherche de potagers à cultiver, qui n'ont pas forcément de terrain chez eux, et d'autres personnes, donc propriétaires, eux, d'un terrain, d'une maison avec un terrain non cultivé ou sous-exploité, les mettre en relation pour qu'ils créent ensemble leur potager, donc entre particuliers, à différence des potagers partagés qui peuvent exister, qui sont souvent des lieux communs qui sont mis à disposition du grand public ou du particulier. Là, c'est vraiment entre particuliers. Donc nous, on les met en relation, on leur propose une convention qui règle leur rapport pour éviter que ça ne dérape. Et puis effectivement, on s'est associé temporairement à Colibri, puisque Colibri organisait un événement sur le thème des SMI, but des charbonniers, le mois dernier. Donc on a profiter de l'occasion pour s'associer avec eux, pour lancer notre action aussi ce jour-là,
à leur côté. Finalement.
Exactement, puisque les thématiques sont un peu les mêmes et les objectifs de Colibri étaient les mêmes que notre action Graines de Potager.
Ouais, vous avez des partenariats avec plusieurs associations. J'ai vu que vous étiez, par exemple, partenaire avec les gargouilles ludophiles de
oui,
Chartres. Ça, c'est pour
un
autre
projet qui s'appelle effectivement Chartres au trésor, qui est l'organisation d'une chasse au trésor dans Chartres, que l'on fait effectivement en collaboration avec les gargouilles ludophiles. Et aussi avec la ville de Chartres qui, sur ce coup-là, nous aide au niveau logistique, au niveau communication surtout. L'idée étant, puisque le jour J de cette action-là aura lieu le 4 juin, il y aura une grande chasse au trésor dans Chartres, avec donc des énigmes qui sont effectivement faites en collaboration avec les gargouilles de fil. L'idée, c'est de transmettre l'action à l'office de tourisme pour qu'elle puisse être reproduite tous les ans et mise à disposition éventuellement des touristes pour découvrir Chartres de manière un peu originale, en dehors des sentiers battus.
C'est quand cette future chasse au trésor ?
Ce sera le 4 juin. Ce sera le dimanche 4 juin.
Comment ça va se passer ?
À Chartres. Alors, il y a 4 parcours qui vont être mis en place. Donc, des parcours plus ou moins longs, plus ou moins familiales, sportifs ou sur des thématiques un peu architecturales selon la typologie d'énigmes. Et puis ensuite, on leur donnera des petites fiches à remplir, des petits questionnaires à remplir pour pouvoir découvrir un peu Chartres et sa ville d'une manière un peu ludique, un peu originale.
Ouais. Et on peut s'inscrire d'ores et déjà, non ?
Les inscriptions ne sont pas encore lancées. On en prendra une partie effectivement en avance, mais ce sera aussi beaucoup, je pense, des inscriptions sur place, selon la météo qu'on espère clémente ce jour-là.
Ouais, vous allez peut-être nous donner, on le donnera en fin d'émission là tout à l'heure dans 5 minutes, mais nous donner quelles sont vos coordonnées. On peut vous joindre.
Alors comment, on peut nous joindre essentiellement sur la boîte mail de la Jeune Chambre économique qui est jcelchartres@gmail.com, mais il y a aussi pas mal d'informations qui sont sur le site de la Jeune Chambre économique de Chartres qui est www.jce-chartres.fr.
Alors, preuve en est que tous les domaines vous intéressent. Il y a aussi une action centrée sur la cuisine.
Oui, alors cette action, elle s'appelle Cuisimonde. C'est une action là, qui, pareil, est en collaboration avec d'autres associations et clubs services. L'idée, c'est de faire un jour J en fin septembre 2016 sur la gastronomie, mais sous l'angle culturel et sous l'angle découverte de l'autre, de la culture de l'autre, puisque ça répond un peu aux récents événements malheureux qu'on a eus en France et ailleurs d'ailleurs, où on se rend compte qu'effectivement, il y a un manque de connaissances et de compréhension de l'autre. Et quoi de mieux que la cuisine pour réunir autour d'un même endroit des gens de cultures différentes et leur faire partager voilà, leurs traditions culinaires, en tout cas. Et au-delà, c'est ce qu'on espère, lors d'une journée qui sera axée sur des cours de cuisine le matin à destination de collégiens, avec des thématiques de cuisine du monde. Et puis le midi, autour d'un repas qui sera là ouvert au public, au cours duquel on dégustera ce que les enfants préparaient le matin, des animations ludiques et pédagogiques pour apprendre à découvrir un peu les cultures de notre territoire, le territoire Beauceron, mais aussi toutes les populations qui sont sur le territoire.
Alors comment vous allez procéder? Vous allez aller voir les gens, notamment dans des quartiers, etc.
L'angle d'attaque, si je puis dire, c'est plutôt les établissements scolaires qu'on va aller chercher, puisque je pense que les équipes pédagogiques peuvent être aussi associées à ce projet-là et faire en interne une préparation à ce projet-là. Donc plutôt les établissements scolaires qu'on va aller recenser pour voir parmi leurs élèves si certains sont intéressés par ce projet-là, d'avoir des cours de cuisine, entre guillemets, gratuits.
Julie, il ne nous reste plus que 2 minutes. Je voudrais qu'on parle quand même quelque chose qui m'intéresse. C'est un jeu que vous avez mis au point, qui s'appelle Argent et moi. Alors, et moi, c'est E-M-O-I. On peut trouver de l'émoi quand on a trop d'argent ou parfois quand on n'en a plus assez à la fin du mois. Et justement, ce jeu vise à réconcilier les jeunes pousses, on va dire, avec la gestion de leur...
La gestion de budget, c'est désacraliser, vulgariser, familiariser la gestion de budget auprès des jeunes. Alors ça va tout petit aux jeunes adultes qui rentrent dans la vie active. C'est une boîte de jeux qu'on a créée il y a plusieurs années, avec un plateau qui ressemble un peu à la bonne paye, pour ceux qui connaissent la bonne paye, avec représenter des charges fixes qui sont en rouge, qui sont des charges auxquelles on ne coupe pas, qu'on s'arrête ou pas dessus, et puis des charges aléatoires qui peuvent être des bonnes surprises, comme un retour par la case parents, desquels on ressort souvent avec des boîtes Tupperware ou autres, et puis des mauvaises surprises...
C'est une bonne surprise pour les enfants, mais pas pour les parents. Hein.
Pas toujours pour les parents. Et puis des mauvaises surprises qui sont un rappel d'impôt, une amende ou autre. Et ce jeu-là, on le destine, il a été édité à plusieurs exemplaires, et on l'écoule principalement auprès d'assistantes sociales, d'établissements scolaires, qui l'utilisent comme support pédagogique, en fait, pour appréhender les premières bases du budget, de la gestion d'un budget, auprès d'étudiants ou de personnes en difficulté sociale ou d'insertion.
C'est un jeu qui a été conçu à l'échelon national ou c'est vous?
Non, c'est un jeu qui a été conçu à Chartres, qui est parti en dehors des frontières même, puisque on a vendu à Québec, on a vendu à Dakar. C'est un jeu effectivement qui a pas de frontières, puisque la question du budget elle est pragmatique pour beaucoup d'entre nous. Et puis c'est un jeu qui est très utilisé dans les établissements scolaires et par les CCAS locaux pour appréhender le budget de manière un peu ludique. Et on a une base géante de 80 mètres carrés qui représente le plateau de jeu, qui a aussi été édité à l'époque, avec un dé à la taille de la bâche, qu'on déploie sur la place des départs lors de la fête mondiale du jeu pour sensibiliser un peu les plus jeunes à cette notion de budget qui est un peu barbare pour certains.
Oui. On peut, vous m'avez dit qu'il vous restait encore des jeux de plateau. On peut se le procurer, non? À titre personnel,
on peut le vendre à un exemplaire par un exemplaire. C'est essentiellement ce qui se fait aujourd'hui, puisque on n'a pas de grosse filière de distribution. Donc on peut se le procurer. Les coordonnées et les bons de commande sont accessibles sur notre site internet.
Que vous allez nous rappeler, parce qu'on arrive au terme de notre entretien.
Alors le site, c'est www.jce-chartres.fr. Et puis pour plus d'informations, pour rentrer directement en contact avec nous, c'est l'adresse mail jcelchartres@gmail.com.
Merci beaucoup Julie, et longue vie à la jeune chambre économique de Chartres et sa région.
Merci à vous de nous avoir accueillis.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you wanna go down? Come on, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the
Le Conseil départemental d'Eure-et-Loir et le service pénitentiaire d'insertion et de probation ont signé une convention pour permettre aux personnes condamnées à des travaux d'intérêt général de les effectuer dans les services départementaux. Des explications du président du Conseil départemental d'Eure-et-Loir, Albéric de Montgolfier, et de Gérard Sourisseau, vice-président en charge du social.
Oui, c'est en effet des personnes qui ont été condamnées à ce qu'on appelle les travaux d'intérêt général ou à des travaux non rémunérés ou à des sursis de TIG, et donc concrètement ces personnes, par décision du juge, effectueront une peine alternative à la prison et effectueront pour le compte du département un certain nombre de tâches. Ça peut être du nettoyage, ça peut être de l'entretien, ça peut être des travaux de peinture par exemple. Donc c'est au profit de la collectivité, pour le compte de l'État, comme une peine alternative à la prison.
Et le département a déjà commencé à embaucher des gens venant du SPIP.
Des personnes notamment qui sont chargées de l'entretien, du petit entretien de véhicules par exemple. Et ça se fait déjà dans beaucoup de communes du département et ça fonctionne, je crois, avec la satisfaction à la fois des services de l'État, de la justice et des communes qui emploient ces personnes. Pour ces personnes, c'est également un moyen de les réinsérer dans la société.
Parce qu'il y a trois partenaires finalement, il y a la justice, il y a le SPIP et puis il y a le département et voilà.
Et les collectivités, les communes en Eure-et-Loir ont déjà cette habitude depuis pas mal de temps. Je pense que Saint-Lubin-des-Joncherets par exemple est une commune qui accueille des TIG depuis plus de 15 ans. Et ce sont donc des dizaines de jeunes ou moins jeunes qui sont accueillis depuis ces 15 ans à Saint-Lubin-des-Joncherets. Nous n'avons, je pense pouvoir dire, jamais eu de déception.
Alors vous procédez d'une manière très particulière, c'est que vous les recevez avant de commencer le stage.
Oui, alors le maire de Saint-Lubin se faisait effectivement le devoir de recevoir la personne concernée pour un entretien préalable où il s'expliquait un petit peu sur sa situation qui l'avait amené là, et puis où on prenait ensemble quelques précautions pour préserver son anonymat au sein des services et avec le tuteur désigné, qui est en général le chef technique dans une petite commune, pouvoir en faire en sorte que le travail s'exécute selon le nombre d'heures à faire le plus facilement possible, sans difficulté relationnelle. Et cet anonymat a été le plus souvent. C'est un jeune qui était pris comme un stagiaire qu'on reçoit. On en reçoit à d'autres titres, en alternance scolaire, et qui faisait donc un certain nombre d'heures en alternance dans nos services. Et à la fin de ce stage, entre guillemets, le plus souvent, j'essayais aussi de les recevoir pour en faire un petit bilan et puis les remercier de leur implication sur la commune pour vérifier que tout s'était bien passé. Voilà.
Rappelons à nos auditeurs que les délits qui ont valu à nos jeunes ou moins jeunes, vous l'avez dit d'ailleurs, ces travaux d'intérêt général, souvent des délits quand même assez mineurs. Hein.
Oui, absolument. Et ce sont effectivement souvent des premiers ou deuxièmes délits, mais liés à des infractions plutôt de type, je vais donner l'exemple, infraction routière par exemple, importante, vous voyez, hein, qui ont fait qu'ils ont perdu leur permis et été condamnés éventuellement à plus que la perte du permis. Hein, voilà. Et donc, souvent, d'ailleurs, dans la discussion, ça m'a permis, quand le climat de confiance a pu être installé quelquefois, de vérifier que ces jeunes-là n'avaient pas de propension à une délinquance forte. Hein. Franchement, la prison n'était pas le meilleur lieu approprié pour les condamnations. Donc le TIG avait vraiment toute sa place.
Les agents du département, certains agents seront employés comme tuteurs finalement.
Oui, ce qui est très important, Gérard Sourisseau le disait à travers la relation avec les élus, mais il est très important aussi qu'il y ait un encadrement. C'est pour ça qu'il y a des tuteurs, des référents et surtout des tuteurs, donc des personnes qui sont très concrètement le supérieur direct et puis l'interlocuteur et qui éventuellement font le lien avec la justice si jamais il y a une difficulté. Donc c'est clair qu'il y a plus d'encadrement et c'est un effort, un engagement personnel. Et on remercie les tuteurs qui s'engagent, c'est un engagement personnel également des personnes qui encadrent ces TIG.
C'était Albéric de Montgolfier et Gérard Sourisseau, respectivement président et vice-président du conseil départemental d'Eure-et-Loir. Voici au terme de cette édition de Ensemble. On se retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle mouture. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes heures à notre écoute. On se quitte en musique.
Amber cascades all over today. Then we walk on a crooked catwalk, only to be delayed. Bubbles of blue burst into two, eaten up by the incoming tide of the new. To the man who walks on the water, we talk of a plan to stop all the slaughter in view. It's in view. Granite charades are plated.